et en particulier cela. On s'instaure comme dans une caste qui a des privilèges par décret qu'on se donne soi-même. Vous comprenez le problème? On est à la veille de l'élection du grand rabbinat en France. Je ne sais pas si vous avez des échos de ce qui se passe là-bas. Alors ça dévoile énormément de choses très analogues. Je n'en dis pas plus, mais c'est la même chose. Et alors voilà, la Gemara raconte cela lorsque elle parle de la naissance de Shmuel. Alors, c'est clair, le premier enseignement de ce midrash doit être retenu. Korach avait des raisons objectives, formelles, comme on a vu, mais il s'en servit de manière démagogique, et puis subjectives, de se dire, et peut-être que moi aussi, dans le principe, je suis équivalent à Moïse et Aaron. Et s'il n'y avait pas eu Moïse et Aaron, on ne refait jamais l'histoire à l'envers avec des si. Okay? Mais s'il n'y avait pas eu Moïse et Aaron, Abba Bator, c'est Korach. C'est lui le candidat légitime, dans le sens de l'égal, si vous voulez. Et les kabbalistes, que je vais beaucoup nous citer à partir de maintenant, nous mettent en garde de ne pas croire que Korach, c'est un vulgaire factieux. C'est un grand, et puis on va chercher pourquoi il s'est trompé. Mais il s'est trompé dans le sens strict. Il s'est trompé. Vous savez, je dis souvent, il faut se méfier des gens qui se trompent. Parce que c'est des trompeurs. Je me trompe. Et vous voyez qui en trompe? Soi-même. Or, les rabbins enseignent que la seule personne avec qu'on peut jamais tromper, c'est soi-même. C'est clair. Quelqu'un qui dit « je me trompe », il faut se méfier. Est-ce que c'est clair? On sait très bien dans le fond de soi qu'on se trompe. Alors, vous savez qui est le trompeur en chef, hein? Il a 7 noms. Le serpent et ça finit, le diable. Yeah, c'est la même hiérarchie. C'est ça. Je voulais vous ouvrir une parenthèse sur le doute. Parce que c'est à la mode. Les intellectuels ont une espèce de coquetterie. Ça fait bien d'être perplexe, ça fait bien de douter. L'aristocratie de la pensée, la mise en doute. Okay? Chez les chassidim, c'est la moitié d'un doute, chassidoute. Mais quoi qu'il en soit, c'est très différent le doute et la perplexité. Faites bien attention. Mais je ne vais pas rentrer dans cette parenthèse. Okay? Il y a des choses pour lesquelles il vaut mieux être sûr. Il vaut mieux être sorti du doute. Il vaut mieux être hors du doute. Par exemple, très souvent j'assiste à des symposiums, à des colloques, au gré de mes voyages au long cours. Très souvent, je suis... Comment dire, j'ai pas la patience de supporter ça. Tous ces ecclésiastiques, parfois c'est des juges aussi d'ailleurs. Je me dis, je crois que... Alors je les arrête. Là-dessus, il faut être sûr. Quel est le je crois? Je sais pas si c'est clair. Il y a qui dit, je crois en Dieu. Tu doutes? Tu crois? Quand je crois, ça veut dire je doute. C'est pas clair. Est-ce que c'est clair? Alors vous voyez qu'il faut faire attention à ces... À ces choses-là. Alors, il y a des gens qui vous font des exposés philosophiques très profonds pour dire finalement quoi. Eh bien, voilà, je crois que je crois. Ils ont mis 2 heures pour nous démontrer ça. Je suis chouette. Maman, j'ai chouette. Bon, en tout cas, pour revenir au sujet, vous voyez, il y avait dans l'identité de Korach matière à tomber dans ce piège. Mais c'est un piège et nous allons voir lequel. Alors, on enchaîne sur le verset suivant. Ça va jusque-là, okay. Ce qu'il faut comprendre, c'est où est sa démagogie. C'est vrai, dans l'idéal, ce qu'il dit, le projet pour la société d'Israël est un projet anarchique. Et d'ailleurs, il y a dans tout juif normal une tendance à l'anarchie, à tous les niveaux. Okay. Et c'est cachère, c'est normal. Dieu a créé toutes ses créatures. Devant Dieu, toutes les créatures sont des créatures de Dieu. Je n'ai pas dit égal, parce que ce mot n'est pas à sa place ici. Mais ont toute la dignité de créature de Dieu. Et si vous étudiez les Midrashim, vous voyez quelle est l'expression qui est employée. Je vais vous lire pour montrer jusqu'où ça va. Mi karne re'emim ad betsekenim. Depuis les cornes du renne jusqu'aux œufs des. Voilà. Tout ça, c'est les créatures du bon Dieu. Y compris les araignées et les SS. Et bien d'autres choses. Et alors, en conséquence, si déjà on arrive au niveau Israël, tout Israël, col Israël, et vous connaissez la suite. Une minute, je vais vous parler de ça. Là, Michel, connaissez-vous. Et l'idéal, c'est cela. L'idéal, c'est ce qu'indique un des versets d'Isaïe. Il arrivera un temps où personne ne dira plus l'un à l'autre « Apprends-moi », parce que la connaissance de Dieu emplira le monde comme l'eau emplit le fond des mers. Vous connaissez ça? Je vous raconte un souvenir qui me revient en mémoire, et après je vous raconterai ce que dit le Talmud sur le verset. Il y a eu, il y a très très longtemps, il y a eu le rassemblement, le premier rassemblement de la jeunesse juive mondiale en Israël, au temps de Ben Gurion, la première fois que la jeunesse juive mondiale s'est rassemblée. Et alors, j'étais le délégué des mouvements francophones, parce que j'étais en fait le délégué du mouvement francophone le plus nombreux, c'était les éclaireurs juifs de France. Je vais avoir quelque part l'agent juif, une photographie. Alors, je me rappelle très bien. Après le discours de Ben Gurion, dans l'ordre, c'était moi qui devais intervenir. Et Ben Gurion avait fini son discours en citant ce verset, « Umalea ha'ares de'a et Hashem, kamaim layam mechassim » C'est comme ça que c'est écrit dans Isaïe. Et lui, il a cité « Umalea ha'ares de'a, kamaim layam mechassim » Alors à la fin de mon laïus, très gentiment, j'étais à côté du roi, j'ai très gentiment, enfin sans papa être insolent, enfin j'espère que je n'ai pas été, et je vais dire sa réaction après. Alors j'ai dit quel était le vrai verset. Et il m'a regardé, et après la cérémonie me dit « Haver Léon, viens ici !» C'est comme ça qu'il parlait. Bon, après on a fait la paix. Mais d'abord il voulait me demander « Mais où tu as appris le français ?»« Où tu as appris l'hébreu ? Toi tu es français ?» Oui, à l'époque, pour un Israélien, surtout Ben Gurion, un français connaît l'hébreu. Quand je dis « J'étais algérien », il s'est rassuré. Parce que d'abord j'ai répondu au Talmud Torah. Il m'a regardé d'un air ahuri. Bon, je referme la parenthèse. Et le commentaire sur ce verset dit ceci. Pourquoi il faut dire « Kamaim la yam mechassim » Comme l'eau recouvre, yam c'est le fond de la mer. Yam. Et maim c'est l'épaisseur de l'eau. Alors il me dit « Plus le fond est bas et plus il y a d'eau. » Ça veut dire « Plus le haram est humble et plus il a de sagesse. » C'est un enseignement très important. Okay, il faut savoir pourquoi la Torah a félicité Moïse d'être humble. C'est parce qu'il était humble qu'il a pu recevoir la Torah. La Torah et l'orgueil, ça ne va pas ensemble. Hein? Alors, je reviens en tout cas au sujet. Ça, c'est l'histoire de Korach, d'ailleurs. Ça se connaît. Et on aborde le verset 5. Non, le verset 4, pardon. « Vaishma Moshe, vaipol al-panav. » Et Moïse entendit, et il tomba sur sa face. Et là-dessus, nous allons commencer par étudier ce que Rashi dit sur le verset. Le sens immédiat, c'est un peu ce que j'ai dit rapidement en introduisant le sujet, c'est que la position de Moïse de Aaron est très difficile devant une telle explosion de démagogie et devant le peuple. Alors ils sont, tout se passe comme s'ils sont paralysés, impuissants. Moïse entendit et il tomba sur sa face. On voit ce que dit Rashi. Rashi va nous dire, effectivement, qu'il ne peut plus intervenir. Et c'est pourquoi il va falloir le jugement de Dieu. Effectivement, Moïse va leur dire, vous lirez la suite vous-même si on n'y arrive pas, et bien on va faire ce qu'on appelle l'épreuve du jugement de Dieu. Vous allez remplir vos encensoirs, Aaron va remplir son encensoir. Si le feu du ciel tombe sur son encensoir à lui, c'est lui que Dieu a choisi. Si ça tombe sur votre encensoir, c'est vous que Dieu a choisi. Mais pourquoi à ce niveau? C'est quand la justice humaine ne peut plus juger. On est bloqué, c'est une impasse. Alors il faut le jugement de Dieu. Et au Moyen-Âge, il y avait très souvent les tribunaux arrivaient à cette conclusion, nous ne pouvons pas juger, alors c'est le jugement de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez des films du Moyen-Âge ou des romans du Moyen-Âge qui faisaient allusion à cela. Alors prenez Rashi sur Vaishma, Vaipol al-panav, il n'y a pas Vaishma. Quelle heure est-il que je vois combien de temps il me reste? Il est 8h25 déjà. Bon, alors on va rapidement. Allons-y. Prenez Rashi, vous y êtes, Vaipol al-panav, je lis. Rashi cite le Midrash Tanhuma et le Midrash Rabba. Je ne sais pas si dans vos livres on vous l'indique, entre parenthèses, Tanhuma et Midrash Rabba. Nipena Marloket. Pourquoi Moïse est tombé sur sa face? À cause de la Marloket, à cause de la controverse. Shekvar ze biyadam silchon rebi. C'est déjà la quatrième fois qu'ils le mettent en question. Silchon, ça veut dire. C'est une mauvaise conduite qui sent mauvais. Quand quelqu'un se conduit, on dit c'est une pourriture. C'est ça, s'il rentre. Hatou Baigel, ils ont fauté au Vaudor. Shemot, chapitre 32. Suivez sur le texte de Rashi. Vaichal Moshe, et Moïse a prié. Les Métonénim, lorsqu'ils ont demandé de la viande, et ils se sont révoltés, Bemidbar Yudalef, et il a, Moïse a prié, Vaït Palel, Vaït Palel Moshe. Bemaragilim, la foi des explorateurs, c'est le chapitre 14, dans Bemidbar, Vaïomer Moshe Lachem, Vaïchamon Mitzraïm, Moïse a plaidé. Alors les Égyptiens, si tu détruis cette génération, les Égyptiens vont l'entendre, ils vont se frotter les mains, et vont dire, eh ben, c'est nous qui avons raison. Ou bien Marloquet sur le Korach, mais dans la controverse de Korach, Nitrashlu Yadam, ses mains se sont affaiblies. C'est-à-dire qu'elle n'a plus la force d'intervenir. Machal, ça ressemble, suivez sur le texte. Machal, ça ressemble, l'Eben Melech, au fils d'un roi, chez Sarach Alabib, qui s'est mal conduit vis-à-vis de son père, ou Pies Alab, au Ravou. Un ami de son père est intervenu pour plaider pour lui, pour plaider pour le fils. Paramushtaïm, une fois, deux fois, Veshalosh, trois fois. Que chez Sarach Rebi, lorsqu'il s'est mal conduit la quatrième fois, une trache lui yédé à Oreb, les mains de l'ami se sont affaiblies, à Oreb Ahoud, de cet ami, Amar, il s'est dit, Admataya Triach, à la mêlée, jusqu'à quand je vais fatiguer le roi, chez Maloïka Belrod Mimeni, peut-être il ne m'acceptera pas. Ça veut dire que, c'est une situation d'impasse. Même Moïse ne peut pas intervenir pour prier pour eux. Mais on me renvoyait à ce que je disais tout au début, c'est une génération qui passe son temps à se rebeller contre Moïse et donc contre Dieu. Donc il faut comprendre à ce niveau-là qu'est-ce qui se passe. Et alors, reprenez le verset. Voyez donc ce que dit Rashi. Rashi va nous mettre en évidence un caractère gravissime, si vous voulez, du problème. C'est-à-dire, Moïse ne peut pas intervenir. Et il ne suffit pas de se référer à la première réponse que je vous ai dit, c'est tellement grave qu'il faut que Dieu décide ce qui se passe. C'est Moïse qui est en question. Il y a un autre épisode, mais je n'ai pas beaucoup de temps. C'est lorsque Dieu a demandé à Moïse et à Aaron de parler au rocher pour que l'eau sorte, un épisode très mystérieux d'ailleurs, et que Moïse a frappé. Et alors c'est là que la sanction, que Moïse ne peut plus être le chef de son peuple, et donc Moïse et Aaron vont rester dans le désert, et le relais sera passé à Josué pour entrer en Eretz Israël. C'est le sujet qui est une énigme dans l'étude de ces questions. Pour quelles raisons Moïse n'est pas rentré en Eretz Israël? Et on a l'habitude spontanément de dire parce qu'il a frappé le rocher au lieu de parler. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On ne se rend pas compte qu'est-ce qu'on manie dans ces références. Pourquoi Moïse n'est pas rentré en Eretz Israël? Parce qu'il a frappé le rocher au lieu de parler au rocher. Alors de quoi il s'agit? Il s'agit de faire sortir de l'eau. Qui peut comprendre comment de l'eau sort du rocher si on parle ou si on frappe? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Personne n'y comprend rien. Okay? Et on se dit que, de manière docte, c'est à cause de ça que Moïse n'est pas rentré dans les Israël. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que... Vous savez, il y a un humour dans la Torah. Ça aussi, il faudrait qu'il faut en étudier. Depuis le début jusqu'à la fin, c'est un humour colossal. Et tellement énorme qu'on ne le voit pas. Je vais donner deux exemples que je donne habituellement. Les deux plus grands personnages de notre histoire, Abraham et Moïse. Je vous dis ça vraiment en passant, mais vous percevez à quel point il faut étudier avec les sages. Parce que sinon, on traverse le texte sans rien comprendre. Lorsque Dieu dit à Abraham, cette terre, je la confirme à ta descendance. Bon, premièrement, c'était sa terre, c'était la terre des Hébreux. Pourquoi il faut la confirmer? Parce que ce n'est pas n'importe quelle descendance. Je la confirme à ta descendance, celle qui passe par Isaac, celle qui passe par Jacob. Effectivement, toute l'histoire montre qu'elle nous est disputée par les autres descendances, jusqu'à y compris à Jérusalem, par la descendance d'Ishmaël, et la complicité des fils d'Abraham, les Juifs. Vous avez vu dans quel piège le gouvernement s'est mis là-dedans, mais c'est déjà quand il a été élu, tous ces pièges sont ouverts. Je parle du gouvernement. Bon, ça va se refermer, rassurez-vous. Alors, en tout cas, qu'est-ce que dit Abraham à Dieu? Je vous formule ça un peu de manière un peu lapidaire. Dieu dit à Abraham, il faut voir la cohérence du récit, c'est Dieu qui parle à Abraham, mais Abraham le sait. Qu'est-ce qu'Abraham dit à Dieu? Donne-moi un signe, t'es sûr? Moi je suis pas sûr. Voilà ce qu'il dit à Abraham. Je sais pas si vous voulez. Énorme. Okay? Est-ce que c'est clair? Eh bien, c'est pas plus invraisemblable la conduite du peuple juif. Cette terre est à nous. Eh bien, tout le monde est sûr, sauf les juifs. Alors, puisque les juifs sont pas sûrs, les arabes en profitent. Vous avez compris le problème. Et c'est comme ça depuis 4000 ans. Okay? Et alors, le deuxième exemple, ça c'est énorme, vraiment. C'est quand ça s'étudie, bien sûr. Quand Dieu se révèle à Moïse, la première chose que Moïse dit à Dieu qui se révèle à Moïse, « Rappelez-moi votre nom, comment tu t'appelles ?» Vous n'avez pas remarqué ça? Et on dit ça tranquillement et pieusement et on passe. C'est énorme. C'est clair, Sylvie? Non, c'est pas clair. Bon, vous voyez, la Gemara dit, quand deux Talmidei Chachamim se rencontrent, s'ils commencent pas par éclater de rire, il faut les fusiller du regard. Parce que ça veut dire qu'ils se prennent au sérieux. C'est pas du tout sérieux pour un sage de se prendre au sérieux. C'est très grave même. Mais tout de suite, la figure hiératique, on dit ça, des bonzes de l'Extrême-Orient ou de ceux de Rome. Ceux-là, on les appelle, en prononciation ashkénaze, ça s'appelle un pop. Mais c'est trop sérieux. Alors, c'est pas sérieux. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce qui est trop sérieux, c'est suspect. C'est clair. Bon. Parce que quelqu'un qui se prend au sérieux, ça signifie que les valeurs, il ne les prend pas au sérieux. C'est lui qui prend au sérieux. Vous avez compris ça? Oui, il faut se méfier des gens pieux qui croient qu'il faut faire sérieux pour faire pieux. Tu vois, c'est clair, s'il vous plaît. Ils font tellement sérieux qu'ils sont tristes, les pauvres. Bien. Alors, pourquoi je vais parler de ça? Comment ça s'appelle dans la Gemara quand deux Talmidei Chachamim se rencontrent? Ça s'appelle Milé de Bdichuta. Deux Talmidei Chachamim, quand ils se rencontrent, ils commencent par Milé de Bdichuta. Ils se racontent des histoires juives, mais profondes. Et je vous raconte une histoire française. C'est la dernière qu'on m'a racontée. Il paraît qu'elle est connue. Moi, je ne connaissais pas. Il y a deux piscines, une vide et une pleine. Et où sont les Gaulois? Les Gaulois sont dans la plaine. Eh bien, figurez-vous, c'est un juif qui a inventé ça. C'est une vieille histoire. Bon, allez, je vais raconter la dernière histoire palestinienne. C'est qu'Arafat est un peu malade. Alors, sa cartomancienne lui a prédit qu'il mourrait à une fête juive. À une tout de suite laquelle. Puis c'est pas important. Là, le jour où tu meurs, il va tuer. Bon, allez, on revient à alors, j'ai sous les yeux un enseignement de la Gemara qui va expliquer le début du verset. Vaishma Moshe. Vaishma Moshe en a traduit et Moïse a entendu. Et il est bien évident que cette information semble inutile. Parce que c'est évident qu'il a entendu. Alors, donc, la Gemara va comprendre le Vaishma Moshe et Moïse a compris. Dans ce qu'il a entendu, il a compris quelque chose qui fait qu'il sait qu'il sera impuissant à intervenir. Alors maintenant, on va voir comment la Gemara, à ce niveau beaucoup plus profond, va reprendre le problème. Je vais lire la Gemara. Vaishma Moshe, je donne la référence, c'est dans Sanhedrin, page 110a. Vaishma Moshe et Moïse compris. Mashmoa Shama, qu'est-ce qu'il a compris dans ce qu'il a entendu? Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Shama, Shehajdu, Meshetish. Il a compris qu'on le soupçonnait d'adultère, et la Gemara va expliquer d'adultère avec toutes les femmes d'Israël. Oui, tout de suite, on a renvoyé un problème apparemment invraisemblable. Okay. Comment on apprend ça? Ensuite, chez Nehemar, d'après ce qu'il y a dans un verset des psaumes, c'est le psaume 106, Vaikan ou les Moshe Bamahane, et on jalousa Moïse dans le camp. Et comment la Gemara a appris, enfin c'est Rabbi Yonatan, que ce verset dévoile ou cache le fait qu'on a jalousé Moïse dans le camp. Ça veut dire qu'on le soupçonnait d'adultère avec toutes les femmes mariées. Mais la maître, vous voyez comment la Gemara tranquillement nous ouvre des portes énormes. Mais la maître, c'est Kolechad Vechad, Kina et Tishtom et Moshe. Ça nous apprend que chacun jalousait sa femme à cause de Moïse. Chez Nehemar, d'après un verset dans la paracha de Kitissa, où Moshe Ikar et Taohel, Venatalo, Michutz, la Machane. Et Moïse prit la tente et l'a plantée pour lui en dehors du camp. Ça veut dire, tant que la tente est dans le camp, on les jalousait d'adultère pour toutes les femmes. Et quand Moïse a vu ça, il a pris sa tente et il l'a plantée en dehors du camp. De quelle tente il s'agit? Il ne s'agit pas de sa tente personnelle. Il s'agit du Ohel Moed. C'est après la fois du Vaudor, lorsque Moïse, après la fois de Meraglim, lorsque Moïse, bon, finalement, a décidé de quitter cette génération d'Israël, c'est Josué qui prend le relais. Je sais pas, j'ouvre ici une parenthèse, mais rappelez-moi qu'on est dans une affaire de tente. On parle des 40 ans du désert, mais Moïse s'est occupé d'Israël pendant 2 ans et demi. Et puis, ensuite, il les a quittés, c'est Josué qui a pris le relais, il était à l'extérieur, comment on dit en français? J'ai oublié, mais vous comprenez, il était à l'écart, oui, à l'écart, et ce n'est qu'à la fin des 40 ans qu'il a repris la génération des enfants à qui il a donné le Sefer Devarim. C'est connu, ça. Bon, rappelez-vous ça. Pourquoi 2 ans et demi? Bon, ça s'étudie. Mais, en fait, quand on s'aperçoit, quand Moïse s'aperçoit, c'est Dieu qui lui révèle qu'il n'est plus, il est trop haut pour s'occuper du peuple, qui est à un niveau trop bas. Alors Dieu lui dit, c'est pas toi qui le conduira en Eretz Israël, donne le relais à Josué. Moïse est le chef d'Israël pour une génération exceptionnelle. Si j'ai le temps tout à l'heure, j'en parlerai, sinon rappelez-moi la semaine prochaine, dans la paracha Hukat, Ken. Vous me rappellerez ça la semaine prochaine. J'ai oublié, alors notez-le. Et alors, en fait, je vais vous dire, vous verrez ce qu'est le Torah Tmima, vous étudierez l'explication du Torah Tmima sur cette Gemara, je vais vous citer, mais je vais beaucoup simplifier pour le Midrash des Kabbalistes, c'est beaucoup plus simple l'explication. Le terme de Ohel, la tente, désigne toujours la tente de la femme. On apprend des patriarches. La tente d'Abraham, c'est la tente de Sarah. La tente de Isaac, c'est la tente de Rivka. Et ça, la Gemara explique, la maison, c'est la maison de la femme, pas du mari. Je sais pas, vous connaissez cela, c'est connu dans la tradition juive. Beto et Ishto. Le Baal Abaït, on ne lui demande jamais comment va ta femme, on lui dit comment va ta maison. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Et d'ailleurs, c'est chez les Arabes aussi. Je ne sais pas si c'était en Tunisie comme ça. Ou alors, chez les Arabes, c'est extraordinaire. Vous connaissez un peu la politesse arabe? C'est ce qu'on appelle les salam alek. Salam alek, c'est salam alekoum. Et salam alekhem en hébreu. Et alors, on lui demande comment il va, ta santé et ta barbe. On lui demande comment va ta barbe. Et c'est très... Ta barbe, oui. Il se caresse la barbe. Ah, mon papa, bien, ta barbe. Et après... on demande, mais je m'assiste à ces choses-là. On demande, et comment va ta maison? Et alors c'est Odarok, ça veut dire, et ça veut dire ta femme. Mais on ne dira jamais ta femme, parce que si tu dis ta femme, qu'est-ce que ça peut te faire? Alors, c'est, chez les Juifs, c'est la même chose. Donc le Ohel, ça veut dire sa femme. Donc il y a une allusion avec le fait. Je vous cite l'explication du Maharal, et après je reviendrai sur l'explication du Shla, qui va beaucoup plus loin encore. Le Maharal dit que, ici, il y a allusion au fait que chacun jalousait Moïse pour la révélation, c'est-à-dire pour sa Torah. Et par conséquent, le fait que Moïse éclipsait tous les autres par son envergure de Torah, les mettait en état d'infériorité, chacun vis-à-vis de sa femme. Voilà, voilà le thème que le Maharal... enseigne. Et effectivement, c'est pas pour rien que la Gemara va mettre ça en évidence. Je vais vous dire comment est la référence. Il me reste quelques minutes. Vous vous rappelez que dans la paracha, c'est dans la paracha de avant Shach Lecha, c'est Barlotera. À la fin de la paracha de Barlotera, on voit que Myriam et Aaron ont querellé Moïse à cause de la femme de Moïse. Qui à l'autre Isha Kushit, qui Isha Kushit Lakar. Bon, c'est un verset un peu difficile à traduire. Je vous ai raconté une fois ce qui m'est arrivé avec ce verset. C'est grâce à ce verset que le Cameroun et Israël ont signé les accords de l'alliance. Parce que Kushi, ça veut dire beau dans l'hébreu biblique et ça veut dire noir. Alors les Bibles traduisent que la femme de Moïse était belle, mais en fait il y a écrit qu'elle était noire. Alors quand j'ai expliqué au président du Cameroun que la femme de Moïse était noire, parce qu'il voulait savoir ce que la Bible parle des Noirs, vous savez que les Noirs ont un complexe vis-à-vis de la Bible. Et puisque la Bible ne serait que des blancs. Alors, et chez les chrétiens, c'est ce qu'ils croient. Hein? Alors chez les chrétiens, c'est terrible, parce que chez les noirs chrétiens, parce que leur Christ est blanc. Alors ils n'avalent pas. Hein? Ils avalent l'hostie, ils voudraient une hostie noire. Non, mais c'est vrai, il y a des mouvements nationalistes noirs, surtout en Amérique, ça commence en Afrique, au Nigeria surtout, anti-blancs, mais alors quelque chose d'extraordinaire. Ils ont toute une série de doctrines que c'est les juifs qui ont falsifié l'histoire, que le Christ était noir, qu'il n'était pas blanc. Ah. Ça va jusque-là. Bon, quoi qu'il en soit, bien sûr, tout le monde sait qu'il était palestinien. D'ailleurs, c'est d'autre part. Et en tout cas, pour revenir, vous n'avez pas ça? C'est la dernière nouvelle. Hein? En tout cas, pour revenir.
Il y a pourtant beaucoup de vierges noires qui s'adorent.
Oui, ça d'autre part. Et ça, parce que ça vient chez les Égyptiens, il y avait un culte, la Vierge Noire. Et, bon, en tout cas, pour revenir au sujet, le Maharal explique que Jéthro, son disciple, Aaron et Moïse, et Myriam, ça y est, j'étais en Afrique, Aaron et Myriam ont querellé Moïse à cause de sa révélation. Le Maharal explique comme ça. Ici, il y a un mystère. La relation avec sa femme, c'est la relation avec la Torah. Ils l'ont accusé de s'abreuver à une source de révélation étrangère. Puisqu'effectivement, il s'agit de la fille de Jéthro. Or, d'après la tradition, la fille de Jéthro était noire. Elle était soudanaise, d'ailleurs. C'était les Soudanais. Enfin, ça, c'est une longue parenthèse qu'il faudrait ouvrir. Mais il faut savoir une chose, c'est que les civilisations noires, dans ce temps-là, étaient très fortes en Afrique. Et en Égypte en particulier, il y avait des grandes dynasties qui ont été des Noirs. Il en reste des traces dans des familles royales, très aristocratiques d'ailleurs, mais ça a été une sagesse noire. Je sais pas, je vous donne un exemple en passant parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Comment on appelait les sages d'Égypte, les mages d'Égypte, les Hartoumim. C'était leur université était à Khartoum. C'est ça, Khartoum, c'est les gens de Khartoum, c'est la capitale du Soudan. Il faut savoir ça. Comment en Tunisie vous appelez le piment fort? Le piment fort. Le piment africain fort. Comment on l'appelle? Soudania, ça ne se disait pas en Tunisie? Il y a des Marocains parmi vous? Il n'y a plus de Marocains? Ça a disparu? pour dire africain, en africain, on dit Soudani. Soudani, ça veut dire nègre, noir en africain. Alors, le Soudan, ça veut dire le pays des Noirs. Bon, vous avez appris ça soudainement. En tout cas, vous voyez, il y a ici un thème de Kabbalah qui est très important. Je vais vous donner la clé parce que le temps avance, et ensuite je vous donnerai des références sur ce problème de la Mahloket et le rôle de la femme dans la Mahloket. Vous voyez, finalement, j'aurais dû commencer par là. Mais le Midrash a un sens de chercher la femme qui est beaucoup plus profond qu'on pourrait le croire. Et qu'est-ce que je disais juste avant de penser à ça?
Oui.
Non, je veux dire, quel est le thème? Retenez bien, vous me direz suffisamment clair, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. La relation entre l'homme et Dieu passe par sa femme, et la relation entre une femme et Dieu passe par son mari, de manière très différente. C'est deux médiations radicalement différentes. Alors c'est pourquoi là, bien sûr, les hommes ont oublié ça, et les femmes, d'autant plus. Mais c'est pourquoi, là, vous avez les femmes mamarines qui prennent leur sens profond, là. C'est que quand il y a vraiment un mariage réussi, le yud de Ish et le he de Isha, c'est le mot de Yah. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, le relais de la relation à Dieu, pour un mari, passe par sa femme, et pour une femme, passe par son mari. Et donc, par conséquent, pour le prophète, la femme est le véhicule de la Shrina, c'est-à-dire le querellé qui prenait son inspiration dans une source de Shrina étrangère à la famille des Hébreux, puisqu'il l'a prise chez Jéthro. Est-ce que c'est clair? Vous avez compris la gravité du problème. Pourquoi ils ont querellé Moïse à propos de Tzipora? Pas parce que Moïse a pris une guillorette, c'est Moïse, et puis d'abord elle était juive, enfin juive, hébreu, puisqu'elle s'est convertie. Mais parce que ils l'ont accusé de s'abreuver à une inspiration extérieure, étrangère. Est-ce que c'est clair? Bon. Alors c'est la même chose ici. La même chose ici, on voit dans ce que cite la Gemara. Okay, on redescend de plusieurs degrés. Ça veut dire, chaque mari jalousait Moïse, parce que finalement, toutes les femmes savaient que la Torah vient de Moïse. Est-ce que c'est clair? Comme si c'était Moïse qui était le baral de toutes les femmes, de tous les maris. Voilà. Fermez la parenthèse, oubliez tout ça, et retenez juste le thème général. Okay? C'est-à-dire, la Gemara, c'est ce qu'elle dit lorsqu'elle dit que la querelle finalement se réalisait au niveau comportement humain, sociaux, en micro-sociologie, que finalement, en réalité, plus ou moins inconsciemment, ils étaient jaloux de Moïse à cause de leur femme. Bon, oubliez tout ça, mais rappelez-vous que c'est le mot de Ohel qui donne la clé de cette... Alors, on revient à la première marloquette qu'il y a eu dans l'histoire, c'est Caïn et Abel. C'est ce que tu voulais dire tout à l'heure. Ken, c'est toi? Je vois pas, il y a quelqu'un d'autre. Réponds. Oui, c'est ça. Et vous vous rappelez précisément que le Midrash avait indiqué que l'objet profond de la marloquette, c'était que Caïn avait une jumelle et Abel avait deux jumelles. T'es clair? Vous vous rappelez pas de ça? Je vous dis le verset. Va tosef la ledet et achiv et hevel. Le mot de et est employé deux fois pour Abel, alors que pour Caïn, va tolé et Caïn. Il y a un et avec Caïn, il y a deux et avec Hevel. Il y a plus être chez Abel. Et donc, avec le mot de « et », en hébreu, ça veut dire « ce qui va avec ».« Et ».« Et » a le sens de « aim ». Ce qui va avec Caïn, c'est sa jumelle. Ce qui va avec Abel, c'est sa jumelle. Et bien, il y en avait deux. C'est tout le problème qu'on me pose souvent la question. Apparemment, c'est une question naïve, mais c'est une question importante. Avec qui se sont mariés Caïn et Abel? Eh bien, comme Adam est né avec sa jumelle, Caïn est né avec sa jumelle, mais Abel est né avec deux jumelles. Il y a un plus-être chez Abel. Et l'objet de la querelle, c'est ce plus-être de Abel. Et en fin de compte, la Kabbalah enseigne que cette querelle entre Caïn et Abel, jusqu'à la fin des temps, c'est la marloquette dans l'histoire humaine. Et qu'en fin de compte, à un certain moment, ça se réalise, je ne veux pas employer le mot de « incarne » en français, parce que ça veut dire autre chose, mais ça se réalise entre Moïse et ses adversaires. C'est Moïse qui va, dans l'histoire humaine, être Abel, vainqueur de Caïn. Alors Moïse est en relation avec cinq niveaux de Caïn différents, mais je vais en parler de trois. Où est situé Kohar? Voilà. Vous voyez, Moïse va avoir des adversaires, des vis-à-vis, avec qui il va avoir à se mesurer. Alors, on l'apprend. Je vais me baser essentiellement là-dessus. Ce sont les élèves du Hari qui ont enseigné ça. Je vais me baser là-dessus, surtout dans la formulation du Shla. C'est lorsque Dieu dit à Caïn, si vous voulez, je l'écris au tableau, sinon visualisez le sursis que Dieu a donné à Caïn. Jusqu'à la fin des temps, il faudra savoir si Caïn était vraiment assassin ou s'il était justicier. Ce qui s'est passé, c'est que Caïn a supprimé Abel. Mais quand le bourreau tue un criminel, on ne peut pas dire que le bourreau est assassin, il est justicier. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Vraiment, je regrette de ne pas avoir suffisamment de temps. Mais rappelez-moi toutes ces questions la prochaine fois. Et alors, l'histoire humaine, c'est Caïn tue Abel. Alors voilà que Moïse vient, et c'est un Abel qui va être plus fort que Caïn. Alors en tout cas, le sursis qu'il a donné à Caïn est donné de la manière suivante, qui shivataim yukam Caïn. 7 fois shivataim, 70 fois shivataim. On traduit 70 fois, mais c'est 7 fois, pardon, 7 générations, yukam se perpétuera Caïn. Il y a un sursis de 7 générations sur Caïn. Le mot de Yukam, on le lit Yud, Itro, Kuf, Kohar et même Mitzri. Alors je commence par en bas. C'est que la Neshama a 5 niveaux. Au niveau du Nefesh, Moïse, Abel, s'est mesuré avec l'Égyptien, même de Mitzri. C'est le même de Yukam. Il a tué le Nefesh, il a tué le Mitzri. Vous voyez, la querelle entre Moïse et l'Égypte. Moïse a tué l'Égyptien, c'est le Nefesh. Au niveau du Ruach, c'est avec Korach qu'il est en querelle. Au niveau de la Neshama, c'est avec Yitro, et ça se dénoue au niveau de la Neshama avec Yitro. La rivalité entre ce que représente Yitro et ce que représente Moïse se dénoue. Ils sont amis, un est beau-frère de l'autre. Il y a deux autres niveaux, et un troisième encore, mais je ne veux pas trop compliquer. Vous voyez que l'identité de Moïse va être aux prises avec le Nefesh de Caïn, ça c'est le Mitzri. Un Nefesh achotet hitamut, il faut l'annuler. Le Ruach, c'est la querelle spirituelle, ça c'est Korach. La querelle plus que spirituelle au niveau de la Neshama, c'est avec Yitro. Laquelle des deux théologies est la plus vraie, celle de Yitro ou celle de Moïse? Or, on s'aperçoit que chaque fois, il y a une femme en jeu. dans le récit. Je vous dis très rapidement, vous étudierez ça dans Rashi, sur les commentaires de l'histoire de l'Égyptien. Quel était cet Égyptien ? C'est un Égyptien qui envoyait aux travaux forcés les maris des femmes qu'il convoitait. Alors c'est cet Égyptien-là que Moïse a tué. Oui, avec Korach, chercher la femme, c'était la femme de Korach, qui disait à Korach, alors quoi, Moïse est plus fort que toi ? La Gemara se demande, mais Korach est devenu fou de s'opposer à Moïse ? Il dit, les conseils de sa femme. Et d'où on apprend ? On apprend de l'histoire de Hon Bet Pelé, un de ses alliés, dont la femme lui a dit, fais pas comme Korach, elle l'a sauvé. Oui, et puis Jethro, mais cette deuxième jumelle de Abel, c'est finalement Tsippora, que Moïse est allé chercher chez Jethro, il l'a ramené en Israël. Bon, je vous récapitule, oubliez, mais vous rappelez une chose, c'est que pourquoi la Gemara a dit, voilà de quoi on jalousait Moïse. Qu'est-ce qui est en question ? La révélation de Dieu, donc, par quelle femme ça passe ? Voilà ce que je voulais vous indiquer, et je crois qu'on est arrivé à l'heure, il me semble. C'est l'heure ?
Oui.
Oui, et bien on va faire vite si Aminian. Alors la fois prochaine, c'est donc la paracha de Roukat, et vous me rappellerez ce que je vous ai dit, j'ai oublié.
Le collectif d'Israël,
je veux dire qui
ceux qui sont intéressés, qui aimeraient...